Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le pape sur Twitter, c'est l'événement de ce mercredi. Benoît XVI a envoyé ses premiers messages sur le réseau social, répondant à des questions qui lui sont posées sur la foi. Retour sur cette journée particulière et dialogue aussi avec un blogueur catholique. Il nous dira ce qu'il pense de cette initiative. L'état des prisons en France fait froid dans le dos. La récente visite du contrôleur général des prisons au Baumettes à Marseille le montre. Nous avons donné la parole à l'aumônier de ce centre pénitentiaire. Et puis, 850 ans, un bel âge, Notre-Dame de Paris entame son jubilé. Ce mercredi marque le début de nombreuses manifestations pendant un an pour rendre hommage à ce chef-d'œuvre d'art et de foi. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Chers amis, c'est avec joie que je m'unis à vous par Twitter. Merci pour votre réponse généreuse. Je vous bénis tous de grand cœur. Tel est le premier tweet envoyé par le pape ce mercredi matin à l'issue de l'audience générale, salle Paul VI, depuis son compte personnel Pontifex. Après avoir prononcé sa catéchèse et salué les pèlerins en plusieurs langues, Benoît XVI a envoyé ces quelques mots en anglais sur une tablette tactile qui lui a été remise par Mgr Claudio Maria Celli, le président du Conseil pontifical pour les communications sociales. Ce premier message, qui se voulait introductif, a aussitôt été traduit en 7 autres langues, récit d'une journée pas comme les autres pour le pape avec Antonino Gallofaro.
C'est un pape très souriant qui a envoyé son premier tweet à 11h30 ce mercredi matin. Un doigt qui frôle l'écran et le message apparaît en direct sous les applaudissements de la salle Paul VI, 130 caractères pour souhaiter la bienvenue aux très nombreux followers qui se sont déjà inscrits au compte Pontifex en 8 langues. Comme cela avait été annoncé, Benoît XVI a entamé un dialogue sur le réseau social en envoyant d'autres tweets qui sont des réponses à des questions qui lui ont été posées relatives à la foi. 3 quarts d'heure après le premier message, une première question lui a été envoyée. Comment pouvons-nous mieux vivre l'année de la foi dans notre quotidien ? Réponse du pape, dialogue avec Jésus dans la prière, écoute Jésus qui te parle dans l'évangile, rencontre Jésus présent en celui qui est dans le besoin. 3 heures plus tard, autre question. Comment vivre la foi en Jésus-Christ dans un monde sans espérance ? Réponse du pape, avec la certitude que le croyant n'est jamais seul. Dieu est le rocher ferme sur lequel construire sa vie et son amour est toujours fidèle. Benoît XVI a ainsi instauré un nouveau type de dialogue sur la foi. Très vite, le réseau Twitter a vibré de nombreux messages sur le compte Pontifex. Nombre de followers ont souhaité la bienvenue à Benoît XVI sur le réseau social. Certains l'ont remercié aussi pour ses encouragements et conseils. D'autres encore se sont étonnés. Ah, ce n'est pas une blague, le pape a vraiment Twitter, pouvait-on lire chez une tweetos française. Le pape sur Twitter est d'ores et déjà un immense succès. La barre du 1 million de followers a été déjà dépassée ce mercredi.
Et si vous voulez suivre le pape sur son compte Twitter, rendez-vous sur le compte Pontifex en français. Le pape sur Twitter a un événement qui a été très médiatisé ce mercredi. Benoît XVI est le premier pape de l'histoire à avoir tweeté. Ce n'est pas la moindre des performances d'envoyer des messages de 140 signes pour un homme de 85 ans, connu pour ses livres et son envergure de théologien. Comment interpréter cette présence du pape sur les réseaux sociaux ? Qu'en attendent les internautes catholiques ? Nous avons posé la question à Fick Monskoff, un jeune blogueur catholique français. Il est au micro de Manuela Affigi.
C'est intéressant de deux points de vue. D'abord, du point de vue des catholiques eux-mêmes qui utilisent Twitter. Avoir un lien aussi direct que possible avec le pape lui-même, ça permettra d'avoir un contact plus proche avec ce père qui est le nôtre, plus proche et plus direct, plus humain. Et pour les non-catholiques, je trouve que ça peut être intéressant aussi d'avoir justement aussi ce rapport plus humain et de voir ce que dit le pape lui-même sans avoir l'impression qu'il y a tout le poids, entre guillemets, de l'Église qui pèse derrière, même si évidemment c'est très lié par la force des choses. Mais je pense que pour un non-catholique, ça peut être plus intéressant de suivre le pape lui-même que de suivre le Vatican, que de suivre l'agence de presse du Vatican, ou voilà, d'avoir le lien direct de personne à personne. Je trouve ça très intéressant.
Que pensez-vous de l'aspect restrictif de Twitter ? Est-ce qu'il est possible, selon vous, de faire passer un message profond en seulement 140 caractères ?
Je pense qu'il y a quand même moyen d'écrire des choses, mais justement, ça rejoint le côté plus personnel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va clairement, il va pas exposer la doctrine sociale de l'Église via Twitter, je pense pas que ce soit l'objectif, mais ce sera, je pense, enfin moi je le vois plus comme ça, plus des petites pensées, des petites choses, mais qui aussi ont l'avantage, peut-être dans un monde où tout est plus rapide et tout est plus, où on est plus dans le zapping, aussi d'avoir un petit peu cette pensée du pape et donc de l'Église, par petites touffes assez discrètes. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent toutes les encycliques, encore moins des noms cathos. Donc je pense que ça peut être un moyen de toucher les gens de façon plus discrète, plus légère, mais peut-être finalement, plus à long terme, peut-être plus efficace. Et peut-être que ces petites pensées-là aussi pourraient permettre à certaines personnes de se dire « Ces petites choses que je lis là sont intéressantes, sont intelligentes, sont profondes. Peut-être que je vais aller voir plus loin. Peut-être que Twitter sera un premier pas vers un approfondissement de toutes ces choses-là. »
Un peu plus tôt, lors de l'audience générale, Benoît XVI a poursuivi sa réflexion sur la révélation de Dieu. Elle s'inscrit à souligner le pape dans le temps et dans l'histoire des hommes. Benoît XVI a rappelé que Dieu n'est pas absent du monde et ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Il a par ailleurs invité les fidèles en cette année de la foi à prendre plus souvent la Bible pour la lire et la méditer. Je vous propose d'écouter le pape s'adressant aux pèlerins francophones.
Chers frères et sœurs, les Saintes Écritures sont le lieu privilégié pour découvrir les grandes étapes de la révélation de Dieu. Cette révélation culmine dans l'incarnation de la parole créatrice qui est à l'origine du monde, Jésus-Christ, le sommet du dessein de bienveillance de Dieu. Sa personne illumine l'Ancien Testament et toute l'histoire du salut. L'histoire est désormais le temps de la présence de Dieu qui manifeste son visage en Jésus et demande à l'homme de le reconnaître et de le suivre. En lui se réalise la nouvelle alliance destinée à tous les hommes, le grand et saint amour témoigné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Avent nous invite à parcourir de nouveau l'itinéraire de la présence de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Il nous rappelle que Dieu n'est pas absent du monde et ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Il vient nous rencontrer, témoignant de sa présence et faisant resplendir dans notre vie la lumière qui a illuminé la grotte de Bethléem.
Restons à Rome un instant. Le Bureau des célébrations liturgiques pontificales a publié ce mercredi le calendrier des célébrations du temps de Noël présidé par le pape. Benoît XVI célébrera la messe de minuit le 24 décembre à 22h dans la basilique Saint-Pierre. Le jour de Noël, mardi 25 décembre, depuis le balcon central de la basilique, à midi, Benoît XVI adressera son traditionnel message au monde et donnera sa bénédiction Urbi et Orbi. Lundi 31 décembre, le pape présidera les premières vêpres de la solennité de Marie, Sainte Mère de Dieu, en la basilique Saint-Pierre à 17h. Pour tout savoir sur les cérémonies du temps de Noël à Rome, une seule adresse, www.radiovaticana.va. De nouveaux actes de vandalisme visant des sites chrétiens à Jérusalem, des graffitis insultants envers le Christ ont été inscrits en hébreu sur les portes du cimetière arménien, ainsi que sur les murs d'un monastère appartenant à l'église grecque orthodoxe. Les pneus de trois voitures ont par ailleurs été crevés non loin du monastère, selon une porte-parole de la police israélienne. Le père Claudius, l'abbé du monastère, a dit avoir découvert le graffiti tôt durant la nuit lorsqu'il s'est levé pour prier. « C'est la septième fois que cela arrive », a-t-il déclaré à des journalistes sur place. « Je leur pardonne », a souligné le père Claudius. « Je crois dans la paix et l'amour des gens de toutes les religions », a-t-il dit sur les ondes de la radio publique israélienne. Dans un communiqué, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a condamné ces actes. « La liberté de culte pour toutes les religions en Israël sera préservée et nous poursuivrons en justice les personnes immorales qui ont commis ces actes », a-t-il précisé. Mais malgré les condamnations systématiques de tels actes par les autorités israéliennes, leurs auteurs sont hélas rarement appréhendé et traduit en justice. Au mois de novembre, la police israélienne avait annoncé conduire depuis plusieurs mois des enquêtes poussées au sujet des auteurs de crimes idéologiquement motivés. Sachez aussi qu'une délégation de la Congrégation des Églises Orientales s'est envolée de Rome ce mercredi soir en direction de l'Irak. Emmenée par le cardinal Sandri, le préfet de la Congrégation, elle doit présider à la réouverture et à la consécration de la cathédrale syro-catholique de Bagdad, un lieu qui avait été violemment frappé par un attentat terroriste le 31 octobre 2010. 53 fidèles assistant à la messe avait alors péri dans le carnage. Le cardinal Sandri célébrera aussi la messe dimanche 16 décembre dans la cathédrale chaldéenne de Kirkouk, dans le nord du pays. Nous reviendrons bien sûr plus en détail sur cette visite en Irak dans nos prochaines éditions. la prison de la honte inhumaine, des oubliettes, les voix se sont unanimement élevées jeudi dernier pour dénoncer le traitement inhumain et dégradant qui sont infligés aux détenus de la prison des Baumettes à Marseille. Les photos rendues publiques par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, après sa visite de 2 semaines sur place, se passent de commentaires. Insalubrité, absence totale d'hygiène, délabrement, l'état des lieux est à l'image d'une réalité marquée par le surpeuplement carcéral, la violence et le manque total de réinsertion. Pierre Richaud est prêtre et aumônier des Baumettes. Il partage le quotidien des détenus depuis 18 ans. On l'écoute.
Les personnes qui arrivent dans la prison, petit à petit, il y a un genre de processus interne qui se produit. C'est que la personne sait pourquoi elle entre en prison. Et après, les conditions de détention sont telles que la personne détenue, petit à petit, d'agresseur devient victime. Elle, dans sa tête, je veux dire, dans sa conception, et elle se voit, comment dire, victime de la société qui la maltraite. Et si vous voulez, les conditions de détention, elles augmentent la distance entre l'agresseur et sa victime, elles augmentent la distance avec la société, et c'est pas du tout réparateur, et c'est presque des conditions qui vont favoriser la récidive.
Et justement, selon vous, quelle serait la première chose à faire ?
Franchement, j'en sais rien, mais je pense que ça serait une conversion un peu de regard. Oui, je pense une conversion de regard des conceptions. Vous savez, tout pays, à mon avis, la France, on est comme les autres, on n'est pas mieux que les autres. Eh bien, on a les prisons qu'on mérite. Si la société veut des prisons qui soient des poubelles, où on met les gens qui ont commis des délits, certes, mais dont on ne veut pas une reconstruction, eh bien, on continuera comme ça. Si on veut une société où, comment dire, le délinquant peut-être avoir une chance de s'amender, peut-être qu'il y aura un changement. C'est Albert Camus qui dit ceci, l'état des prisons est à l'image de la société qui les construit. Je pense que c'est ça. Dans le monde catholique des prisons, on a pas mal réfléchi à cette situation des prisons actuelles. Il faudrait que, au lieu de dire, vous savez, on parle de peine alternative, bracelet électronique, semi-liberté, travaux d'intérêt généraux, etc. Et ça, c'est ça qui devrait progresser. La prison devrait, à mon avis, et ça serait, je pense, même positif par rapport à la récidive, hein, parce que c'est ça qu'on craint dans une société, et bien que la prison soit vraiment la peine de dernier recours.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. Et restons en France pour terminer ce magazine avec l'anniversaire d'une vieille dame prestigieuse. Ses tours gothiques s'élancent dans le ciel depuis plus de 8 siècles. Ses murs résonnent de pierres et de chants sacrés. Elle a survécu à la guerre de 100 ans, à la Révolution française, aux 2 guerres mondiales. 14 millions de personnes s'y prêchent chaque année. La cathédrale Notre-Dame de Paris fête ses 850 ans. En 1163, en présence du roi Louis VII, le pape Alexandre III posait la première pierre de ce qui allait devenir l'un des édifices les plus emblématiques de France, une cathédrale d'art et d'histoire participant de la construction identitaire de la ville de Paris. À occasion exceptionnelle, dispositif exceptionnel, l'anniversaire sera célébré en grande pompe à partir de ce mercredi et jusqu'au 24 novembre 2013. Une messe solennelle présidée par le cardinal 23 ouvrira cette année jubilaire et sera ponctuée de nombreux spectacles, expositions, colloques scientifiques, cérémonies et actions de grâce. La cathédrale devrait profiter également d'une cure de jouvence bien méritée avec l'arrivée de nouvelles cloches, la restauration du grand orgue et la réfection de l'éclairage extérieur. Cet anniversaire veut surtout permettre aux fidèles et aux visiteurs de redécouvrir les trésors de ce lieu exceptionnel dans une démarche de foi et de spiritualité. Écoutez Mgr Patrick Jacquin, il est le recteur de la cathédrale.
C'est d'abord une cathédrale vivante, vous savez, avant d'être de l'art et de l'histoire. Le mot du pape Benoît XVI, quand il est venu nous rendre visite il y a quelques années et qu'il a prié les vêpres avec nous et tous les prêtres et les religieuses à la cathédrale, justement, voyant le personnel et les prêtres, il a dit cathédrale vivante. Et depuis ce temps-là, nous nous efforçons, autour de l'archevêque de Paris, Mgr 23, de rendre visible ce fait signalé par le pape Benoît XVI, que cette cathédrale, elle est vivante, c'est une famille qui est chargée avant tout de témoigner du Christ ressuscité, d'annoncer la bonne nouvelle, c'est pas l'évangélisation, et de vivre le ministère de l'accueil tous les jours de l'année.
Donc cette cathédrale, c'est un lieu vivant, c'est un lieu de culte, mais également un lieu très touristique. Comment arrivez-vous à gérer cette double identité ?
Je crois que si on avait trouvé vraiment la solution parfaite pour gérer tout cela en même temps, on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Mais donc il faut s'accommoder de la vie, à la fois de cette cathédrale et de ce monument historique. Nous recevons chaque année sur le parvis 20 millions de visiteurs. Sur ces 20 millions, il y en a 14 millions, c'est des chiffres de l'Office de tourisme, qui rentrent dans la cathédrale. Ils font le tour de la cathédrale, ils regardent les magnifiques choses, et en même temps, ils font un peu de bruit, forcément, puisque ça fait à peu près entre 40 000 et 60 000 par jour. Mais par ailleurs, nous avons 4 messes par jour, il y aura 6 messes pendant l'année du jubilé, les vêtres chaque jour en direct sur KTO, et nous avons chaque dimanche 4000 fidèles qui pratiquent régulièrement le culte. Donc nous essayons de faire en sorte que les visiteurs et les fidèles apprennent à vivre ensemble. C'est assez facilement gérable. Et par ailleurs, quand on célèbre le culte, les vêtres ou la messe, ou la vénération de la couronne d'épines, on s'aperçoit bien qu'il y a un nombre de gens qui vivent la même chose que Paul Claudel a vécu quand il a écouté les vêpres de la nuit de Noël en 1886. Ils sont touchés quelque part parce qu'ils voient, en tous les cas, ils ressortent différents de ceux qu'ils sont rentrés. Et nous avons beaucoup de témoignages par lettres, par SMS, par mail, par visite aussi, et presse d'accueil qui, en plusieurs langues, accueillent les gens, et qui nous disent combien ils ont été touchés, changés, bouleversés, et qu'ils ont commencé une conversion. Donc finalement, en célébrant l'office de l'Église, on imagine à juste titre que, en étant au plus vrai et en le faisant au plus beau, ça touche les cœurs et des gens en passant autour en reçoivent, comme on dit dans l'Évangile, les miettes. Mais plus que des miettes, ils sont mis en route sur le chemin. C'est pour ça que le thème de cette année jubilaire est une phrase de saint Augustin qui désigne le Christ en disant « Je suis la voie qui cherche des voyageurs ».
Monseigneur, qu'attendez-vous de cette année jubilaire ?
Eh bien, que tous ces visiteurs soient touchés au cœur. Les fruits, on ne les sait pas à l'avance. C'est sûr que notre archevêque attend que la bonne nouvelle soit encore plus annoncée aux Parisiens, aux Français et au-delà, à la multitude. Les fruits, ben, ils seront ce que, au bout d'une année, on pourra peut-être découvrir. Et les fruits seront ce que les pèlerins en auront fait. Ce qui est sûr, c'est que ces visiteurs, en venant sur le parvis, vont ne pas pouvoir oublier qu'ils ont été accueillis par un grand effroi, qu'ils auront été pris par la main pour faire ce chemin et se poser quelques questions fondamentales. Qui m'a aimé, qui m'a mis au jour, avec qui je chemine et vers où je vais? Qu'est-ce que je crois et qu'est-ce que je veux être? Dans cette année de la foi, ils seront invités à contempler la façade de la cathédrale et à découvrir ce mystère du salut qui est proposé à tous les hommes. Et donc à eux-mêmes, et à méditer ainsi sur leur propre condition humaine, qui est un exploit encore plus grand que les 850 ans de la cathédrale.
Quel est votre lieu préféré de cette cathédrale ? Est-ce qu'il y a un endroit que vous ne connaissez pas encore, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à découvrir pour vous ?
Il y a toujours quelque chose à découvrir, c'est le cœur des hommes et des femmes qui viennent dans cette cathédrale. Un endroit que je ne connais pas encore, maintenant non, je connais tous les endroits de la cathédrale. Par contre, découvrir l'histoire de cette cathédrale, ouais, c'est toujours des nouvelles choses qui viennent à nous. Ça fait 3 ans et demi qu'on prépare ce jubilé, on voit bien qu'on découvre toujours des choses importantes, essentielles. Et moi, j'aime bien me mettre au fond du parvis, à la fois pour regarder la cathédrale et pour être là à accueillir tous ces gens qui arrivent.
C'était Mgr Patrick Jacquin, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour plus d'informations, le site officiel du jubilé, www.notredamedeparis2013.com. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.